France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, on sait que le retour à l'école va se faire en 3 temps, mais sur les modalités précises, les effectifs, le port du masque, cantine ou pas cantine, hein, tous les parents attendent avec impatience le discours du Premier ministre cet après-midi. Bonjour François Vielle-Sage.
Bonjour.
Vous êtes membre du bureau exécutif de l'AFPA, c'est l'Association française de pédiatrie ambulatoire, association qui a publié un communiqué pour signaler qu'elle était favorable à la reprise des cours dès le 11 mai. Vous ne craignez pas que les écoles deviennent des foyers de contamination ?
Alors, il n'y a pas de risque zéro en période Covid, hein, vous savez. La seule chose que nous disons, c'est que mai ou septembre, finalement, au point de vue du risque de contamination, les choses seront à peu près pareilles, puisque l'immunité collective, en l'absence de vaccin actuel, va être quasiment impossible à obtenir. C'est qu'il y a moins de 6% des gens qui ont des anticorps, et encore moins les enfants. Je crois que nous, la question qu'on s'est posée, c'est l'enfant est-il en danger ? L'enfant met-il les autres en danger ? Et existe-t-il des enfants particulièrement à risque ? Et c'est là-dessus que nous avons voulu répondre.
Et à ces trois questions, vous répondez non à chaque fois ?
Alors, l'enfant est-il en danger ? Clairement, les études, que ça soit la très belle étude islandaise où ils ont testé 6% de la totalité de leur population, comme le cluster de Crépy en France, ou les statistiques qu'on a sur les tests qu'on fait aux urgences pédiatriques en France, montrent que l'enfant est beaucoup moins porteur que l'adulte, et qu'en plus, quand il est malade, c'est beaucoup moins fréquent, et il est plus souvent asymptomatique, et il fait exceptionnellement des formes graves.
Et il est moins vecteur ?
Alors, est-ce qu'il met les autres en danger ? Est-ce qu'il est vecteur ? Ben là aussi, les études, en particulier le cluster, le foyer des contamines, mais aussi une étude récente australienne, viennent de montrer qu'il est beaucoup moins souvent vecteur que l'adulte, et que souvent, c'est l'adulte qui contamine l'enfant, et pas l'inverse, et que souvent cette contamination a été intrafamiliale, dans la famille. Donc aller à l'école, finalement, il n'y a pas de risque zéro, on est bien d'accord, mais ça ne présente pas de risque particulier.
Y compris pour les enfants qui ont des maladies chroniques ?
Alors c'est le problème, c'est-à-dire que pour l'instant, pour les maladies chroniques, c'est-à-dire les diabétiques, les enfants qui ont des maladies nécessitant des traitements immunosuppresseurs au long cours et tout ça, il n'y a pas d'alerte particulière, mais bien sûr, par prudence, on fera particulièrement attention vis-à-vis des mesures à prendre chez ces enfants-là. Et ce qui fait que ça nous fait dire à la fin que le problème de l'école, c'est pas l'enfant, mais c'est l'adulte. C'est l'adulte qui peut être plus souvent vecteur, c'est l'adulte qui peut être plus souvent malade, et plus il est âgé, plus il peut en faire des formes sévères. Donc c'est à lui de bien se protéger, de respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, et ce sont les salles aussi qu'il faut bien désinfecter, pas oublier de les aérer aussi, mais vraiment lavage de mains, masque, ça surtout pour les adultes et les adolescents, hein, qui sont quand même plus à risque que l'enfant de moins de 15 ans.
Hein. Ah, vous faites la distinction quand même entre donc les tout-petits et les collégiens et les lycéens.
Oui, c'est-à-dire que, bon, suivant les études, si vous voulez, on met des cut-off à des âges différents. L'étude islandaise, chez les enfants qui n'étaient pas symptomatiques, montrait qu'il y en avait aucun qui était atteint avant 10 ans et que c'était plutôt faible jusqu'à 15 ans. Par contre, une autre étude a monté, celle de Crépy, par exemple, dans l'Oise, a montré que avant 15 ans, il n'y avait 2-3% d'enfants qui étaient atteints, alors qu'on monte à 40% chez l'adolescent.
Mais donc on rouvre quand même les collèges et les lycées, selon vous ?
Oui, parce que l'adolescent ne fait exceptionnellement des formes graves aussi. Hein. C'est les formes graves, c'est après 25 ans et surtout après 50 ans.
D'accord.
Donc il peut être atteint, il peut transmettre, mais il fera pas lui-même de formes graves. Donc l'adulte a à se protéger.
Après un mois et demi de confinement, le retour à l'école, c'est nécessaire aussi et surtout pour leur bien-être physique ou psychologique ?
De toute façon, vous savez, comme on est parti plutôt sur du long terme, l'immunité collective sera impossible. Donc on est parti sur 1 an, 2 ans, enfin tant qu'on n'aura pas réussi à vacciner 60% de la population adulte. Hein. Et donc pour l'enfance, le problème se posera, on va pas arrêter et confiner pendant 2 ans. Donc c'est un repère social, l'école. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, il y a une augmentation d'utilisation des écrans, il y a une diminution des activités physiques, il y a une augmentation de la maltraitance, hein, plus de 89% d'appels au 119, le téléphone enfance en danger au mois d'avril. Puis il y a tous les problèmes de ces enfants qui supportent mal le confinement, qu'ils aient des problèmes psychologiques, que ce soit les autistes, les enfants qui sont hyperactifs, sans compter les problèmes de maltraitance intrafamiliale qui concernent pas que l'enfant d'ailleurs.
Mais sans aller jusqu'à ces cas extrêmes, est-ce que de manière globale vous avez pu constater au travers, je sais pas, des consultations que vous faites, que c'est particulièrement perturbant ce que nous vivons aujourd'hui pour les enfants?
Alors chaque pédiatre a son et médecin a sa population particulière. Nous avons mis en place des téléconsultations qui permettent de discuter avec les parents qui restent à domicile, de discuter avec les enfants et en particulier les adolescents ou les enfants grands directement, de parler de leurs problèmes, de savoir comment ils vivent, quelles mesures ils prennent, comment ils supportent les choses, comment ils voient la rentrée des écoles. Et je crois que c'est absolument indispensable. Et la plupart des médecins qui ont l'enfance en charge se sont organisés comme cela, ce qui n'empêche pas d'organiser les cabinets pour recevoir les sujets qui ont besoin d'être examinés, ou les vaccins à faire dès l'enfant de moins de 2 ans, les consultations de sortie de maternité, etc.
Toutes les consultations hors Covid, est-ce que vous avez constaté qu'il y en avait moins en ce moment parce qu'en ce moment on hésite à aller voir le médecin de peur de le déranger ou d'être contaminé?
Alors il y a deux choses là-dedans, il y a cette peur-là probablement, et donc là on a lancé des alertes pour ne pas négliger des pathologies qui auraient été prises en charge plus tôt avant et qui donc vont pouvoir peut-être arriver à des formes à un stade plus grave. Il y a aussi, par exemple, le fait que on a 90% d'infections courantes hors Covid, les infections habituelles de l'enfant en moins. Parce que grâce au confinement, d'ailleurs c'est une très belle étude épidémiologique sur l'impact de la collectivité sur les enfants, bon, qui sont en général pas graves, hein, ça n'empêche pas d'aller à l'école, mais on va pas confiner tout le monde pour les otites, hein, c'est clair, mais on en a beaucoup moins, ça c'est clair.
Merci François Villers-Lesage, membre du bureau exécutif de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, vous étiez l'invité du 5-7.